Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le mardi 29 octobre. Au programme aujourd'hui, une actualité brûlante pour l'avenir, la question des batteries électriques qui s'enflamment, et pas que les prix, hein, qui prennent feu. C'est un gros problème d'avenir, notamment pour les pompiers qui galèrent. On va parler de thon en boîte, où il y a du mercure dedans, figurez-vous, ça va pas vous donner trop envie d'en manger prochainement. Des histoires de budget, toujours, puisque c'est un peu l'actualité sans fin, avec notamment des mobilisations aujourd'hui qui s'inquiètent sur le financement de la sécurité sociale. Et puis, il serait question aussi un petit peu de députés qui se sont fait rouler dans la farine. De la farine et des casseroles, oui, c'est ainsi qu'aurait pu s'intituler cette rencontre qui a eu lieu à la fête de l'oignon doux et de la pomme au Vigan, c'était dimanche il y a 2 semaines maintenant. Un jeune homme a enfariné le député Allégré Pilot qui se baladait dans les allées de cette foire et celui-ci a porté plainte pour violence aggravée. C'est pour cette raison eh bien, que des personnes qui étaient notamment présentes aussi à cette casserolade, hein, venues accueillir le député sur place, tiennent à manifester leur soutien à leur camarade qui a été interpellé et qu'il vous invite mercredi prochain, le 6 novembre, devant le tribunal d'Alès à 10h pour lui apporter soutien donc lors de son passage devant le juge. Petit extrait du communiqué donc, qui a été rédigé par ces personnes qui, je rappelle, étaient aussi présentes à ce rassemblement. Ils étaient plus d'une quarantaine dans les allées de la foire du Vigan. Pour eux, il est absurde de subir une garde à vue et un procès pour un geste symbolique qui est celui de jeter de la farine. Évoquer la violence dans ce contexte est tout simplement risible. Et rajoute-t-il, c'est un petit peu aussi minimiser les réelles violences qui sont subies et commises ailleurs. Il rappelle que donc, le manifestant est actuellement mis en cause par Bercy, que le député qui a été enfariné, le député de notre circonscription du Gard, est mis en cause par Bercy, donc le ministère de l'économie, au sein duquel il a travaillé en tant que haut fonctionnaire, car il aurait profité de ses fonctions justement pour allouer un chèque de 1 300 000 euros à une entreprise qui n'existait pas, une entreprise fictive. Et donc, puisque ce député prétend soutenir les producteurs locaux, c'est ce qui a motivé sa visite à la foire de l'oignon doux et de la pomme au Vigan, et bien c'est donc là-dessus qu'il remet en cause sa présence, et il rappelle qu'il est suspecté, justement dans cette affaire qui a été révélée par Bercy, d'avoir tenté d'abuser un vigneron en détresse dans sa région d'origine. C'est d'ailleurs dans ce cadre, disent-ils, que le manifestant a décidé, comme tant d'autres, de participer à cette casserolade. Donc c'est quand on attend une personnalité publique en tapant sur des casseroles pour lui rendre la visite un peu moins agréable. Cet acte symbolisant donc les casseroles que ce député traînait derrière lui. Et je vous ai parlé d'ailleurs la semaine dernière aussi d'une procédure en cours pour essayer d'invalider son élection suite justement à des hautes fonctions qu'il occupe au niveau territorial qui seraient incompatibles avec une candidature de député. Il précise que l'enfarinage n'était pas prémédité et que le manifestant s'est senti humilié par la présence et les attitudes de mépris de ce député envers les participants à la casserolade qui était venu donc dénoncer pacifiquement ses démêlés avec la justice. Il est donc poursuivi en justice aujourd'hui et défendent cet acte en rappelant que les députés représentent le parti donc les Républicains et rejoint donc la partie sciotiste qui a rejoint le Rassemblement National. Le racisme, le sexisme, l'homophobie et la haine des pauvres sont des violences que nous refusons et combattons. Continue donc ses soutiens. Affirmons notre opposition à l'extrême droite et à ses idées. Soyons nombreux et nombreuses pour soutenir ce camarade face à la répression et la justice. Nous répondons solidarité. Voilà, le rendez-vous, c'est donc au tribunal d'Alès mercredi prochain, le 6 novembre à 10h. Une pétition est aussi en ligne d'ailleurs sur le site change.org sous le titre « Soutien aux camarades enfarineurs ». Des casseroles et de la farine, on passe logiquement aux boîtes de conserve. Attention, je vous l'ai dit, ça ne va pas vous donner envie de manger du thon. En effet, c'est l'ONG Bloom qui vient de révéler ce scandale dans une enquête. Elle a analysé 148 boîtes de thon et elle révèle que la totalité des thons qu'ils ont donc analysés, tout le thon en conserve, est contaminé au mercure. C'est un scandale sanitaire d'une ampleur inédite. Un des poissons préférés pourtant des Françaises et des Français apparemment. Et le thon contient donc ce mercure, hein, du poison donc. Cette enquête a duré un an et demi, elle vient d'être publiée aujourd'hui par l'ONG Bloom, qui s'intéresse aussi aux problématiques de surpêche dans les océans. C'est une association de défense des océans d'ailleurs, plus précisément. Elle a sélectionné des boîtes de thon dans 5 pays européens, dont la France, et les a fait tester par un laboratoire indépendant. Ces résultats sont donc spectaculaires, hein. Toutes les boîtes de conserve sont contaminées au mercure, et pas qu'un peu, vous allez le voir. Tout d'abord, le mercure... Un petit point, donc c'est un métal qui est considéré comme l'une des 10 substances les plus préoccupantes au monde, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, juste derrière l'arsenic et le plomb. Le dérivé du mercure qui est présent dans l'alimentation s'appelle le méthylmercure, et il est classé comme cancérogène possible par le CIRC, le Centre International de Recherche sur le Cancer, puisqu'une fois qu'on l'ingère, qu'on le mange, le méthylmercure passe dans le sang, puis dans les organes où il s'accumule, et ainsi, même à faible dose, l'ingestion régulière de cette substance peut entraîner des problèmes neuronaux, cardiovasculaires, immunitaires, rénaux et aussi reproductifs. Alors comment ce poison arrive-t-il dans nos assiettes ? Eh bien, il est tout d'abord émis par la combustion du charbon et donc toutes les activités minières. Il est présent dans ces suies. Ensuite, le mercure retombe dans l'océan et est ensuite mangé par les poissons sous cette forme donc, qui est la plus toxique, le méthylmercure. Or, le thon est en haut de la chaîne alimentaire, hein, c'est un super prédateur et il accumule donc les métaux lourds qui sont contenus dans ses proies. Et c'est un phénomène comme ça d'accumulation... successifs, un peu comme quand l'eau s'évapore, eh bien, les matières se concentrent et donc se concentrent en haut de la chaîne alimentaire, donc par exemple dans le thon, mais aussi dans d'autres poissons de haute chaîne alimentaire, je crois, comme l'espadon. Voilà. Ainsi, pour la plupart des poissons qu'on mange, par exemple le cabillaud ou les sardines, un seuil maximal a été fixé, donc un seuil qui se calcule en milligrammes de mercure par kilo de chair. On est à 0,3 mg pour le cabillaud ou les sardines, par exemple. Eh bien, le thon n'a pas de seuil maximal. Ce poisson, donc, ou aussi, je citais l'espadon ou le requin, eh bien, pour ces poissons, le seuil de mercure à ne pas dépasser est de 1 mg par kilo lorsqu'il est frais. Donc, on est à 3 fois plus que pour la sardine ou le cabillaud, alors que, bon, a priori, on les mange de la même manière. Donc, ces espèces peuvent contenir 3 fois plus de poissons que d'autres, si on suit la législation, et ainsi être autorisé à la vente. Le mercure du thon n'est pourtant pas moins toxique que celui d'une sardine ou d'un cabillaud, vous l'aurez compris. C'est donc incompréhensible, sauf si on imagine eh bien, que tout cela est fait pour pouvoir continuer à commercialiser ces poissons. Ces teneurs maximales, d'ailleurs, qui sont autorisées en mercure, elles s'appliquent seulement au thon frais, ce que je vous ai dit, et donc pas du tout pour le thon en boîte. C'est pourquoi l'ONG Bloom a demandé à la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation, quel était le taux pour les conserves de thon. Eh bien, la DGAL a répondu qu'elle ne disposait pas de cette information, donc ça n'existe pas. Or, dans le thon en boîte, en plus, il y a beaucoup d'eau qui sort de la chair, donc le mercure se retrouve 2 à 3 fois plus concentré que dans le thon frais. En conséquent, la DGAL ne peut pas déterminer si les conserves de thon respectent ou pas la législation européenne sur le mercure. Donc il n'y a pas de mesure qui est faite en France. D'après les calculs de l'ONG Bloom, une teneur en mercure de 1 mg par kilo pour du thon frais voilà, pêché, théoriquement ça devrait amener environ 2,7 mg par kilo dans une conserve. Donc on augmente de 3 à peu près le taux de concentration du mercure. Donc le seuil du mercure pour un thon en boîte, finalement, ça va finir à 9 fois plus élevé que celui de la sardine fraîche ou du cabillaud dont je vous parlais un peu plus tôt, si vous avez suivi. Donc voilà. Des taux se dépassent donc bien sûr largement les recommandations fixées par les autorités sanitaires européennes. Elles ont défini une dose hebdomadaire tolérable, hein, DHT, donc ce qu'on devrait à peu près consommer par semaine. Et donc pour le mercure, l'Europe a fixé ça à 1,3 microgrammes par kilogramme de poids corporel, donc de votre propre poids à vous. Tout cela pour éviter une contamination trop importante au mercure, hein, parce qu'on va en manger dans tous les cas. Par exemple, si on prend donc un enfant de 3 ou 4 ans, s'il mange 100 grammes de thon en boîte avec ces fameux 2,7 mg par kilo, comme la plupart des boîtes de conserve qui ont été analysées, eh bien cet enfant mangera donc par semaine environ 12,5 fois plus que commandé par et recommandé par l'Europe. Du mercure, donc je vous rappelle. Et pour un adulte de 67 kg, s'il mange la même quantité, il dépassera de 3 fois les seuils recommandés. Et tout ça n'est même pas le pire, puisque parmi les boîtes de thon qui sont testées toujours par l'ONG Bloom, dans ce rapport rendu public aujourd'hui, eh bien c'est la marque Petit Navire qui gagne tous les records, avec des teneurs de 3,9 mg par kilo. Donc si vous mangez une boîte de thon Petit Navire, il suffit de 15 grammes à un enfant d'une quarantaine de kilos pour dépasser la dose hebdomadaire qui est tolérée, donc une boîte pour une semaine, et 30 grammes pour ce qui est d'un adulte, voilà, 30 grammes de thon, et vous avez votre dose de mercure pour la semaine. Le seuil de dangerosité qui est fixé par les pouvoirs publics n'a donc pas été pensé pour protéger la santé de millions de consommateurs, mais pour protéger les intérêts de l'industrie thonnière. Voilà, c'est clairement résumé et dénoncé par l'ONG Bloom, et elle a l'air donc sur une contamination généralisée des populations. Face à ce scandale sanitaire qui vient juste d'être révélé, Bloom ainsi que l'ONG de défense des consommateurs Foodwatch réclament tout simplement pour l'instant l'interdiction de la commercialisation des produits à base de thon qui dépasseraient 0,3 mg par kilo de mercure. Et ainsi, et également, ils souhaitent l'interdiction de tous les produits qui contiennent du thon dans les espaces les plus sensibles, par exemple les cantines scolaires ou les crèches, peut-être même les hôpitaux, ça pourrait être une bonne idée. Et enfin, surtout, ces deux ONG demandent à la Commission européenne d'aligner le seuil de mercure pour le thon sur celui de tous les autres poissons que nous pouvons consommer, comme par exemple le cabillaud ou les sardines. Voilà. J'imagine que dans les jours, on va avoir des réactions aussi peut-être au gouvernement sur cette question. En tout cas, ça serait pas mal s'ils ont le temps de s'en occuper.
Ah, les rebolles, tout ça, mais c'était écœurant à la fin.
Bah, puisqu'on parle du gouvernement et qu'on parle de maladie, on va aussi s'intéresser à la question des soins. Hein, qui va pouvoir nous soigner et à quel prix ? De grosses inquiétudes planent en effet sur le financement de la sécurité sociale. C'est ce qui pousse aujourd'hui les personnels de santé à la mobilisation partout en France. Et avant une grève qu'ils ont annoncé, une grève reconductible à partir de ce 4 novembre. Un petit résumé de la situation déniché sur le site de France Bleu. Donc c'est l'intersyndicale des professionnels de santé, à savoir la CGT, FO, Solidaires et l'UNSA, qui appellent aujourd'hui à cette journée de mobilisation pour dénoncer le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, donc pour l'année 2025, qui est discuté à partir de hier à l'Assemblée nationale. Les syndicats de la fonction publique hospitalière ont aussi donc déposé hier un préavis pour une grève nationale reconductible du 4 novembre au 21 décembre. Pour ces syndicats, l'augmentation de 2,8% prévue des dépenses de l'assurance maladie ainsi que les 3,1% des établissements publics de santé sont loin de répondre aux besoins. C'est Malika Belarbi, la secrétaire départementale de la CGT Santé Action Sociale des Hauts-de-Seine, qui l'explique au téléphone sur France Bleu. Elle explique qu'aujourd'hui, donc, ce plan, ce PLFSS, est loin des attentes des usagers et loin des attentes des professionnels de la santé. On nous applaudissait pendant le Covid et nous redevenons ces fainéants de fonctionnaires qui coûtent cher. Ça commence à faire de trop et les agents ont envie de le dire. Expliquait aussi d'ailleurs le secrétaire national de l'UNSA Santé, Yann Le Baron. Dans le viseur de ces syndicats, donc, la volonté du ministre chargé du budget, Laurent Saint-Martin, de passer à 3 jours le délai de carence des fonctionnaires en cas d'arrêt maladie, alors qu'on est à seulement 1 jour de carence aujourd'hui, et aussi le projet de réduire l'indemnisation des arrêts maladie à 90%, alors qu'ils sont aujourd'hui pris en charge à 100%. Ce projet, c'est pour aligner le secteur public et le secteur privé, donc on nivelle par le bas. La Fédération hospitalière de France dénonce, elle, de son côté, une augmentation de l'enveloppe accordée aux hôpitaux en trompe-l'œil, et elle explique que l'exécutif prévoit par ailleurs une hausse des cotisations de retraite du personnel hospitalier, qui vont dépenser plus en retraite, et que cela va être imposé aux hôpitaux publics. Donc, ils expliquent qu'il faut prendre en compte l'augmentation des cotisations de retraite, qui représente plus d'un milliard d'euros sur la totalité. C'est ce qu'expliquait le président de la FHF, donc la Fédération hospitalière de France, Arnaud Robinet, sur France Culture. Et si on ajoute à cela aussi, d'ailleurs, le retard accumulé à cause du sous-financement de l'inflation de 2023 et 2024, donc si on intègre ce retard accumulé, la progression réelle ne sera que de 0,2%, ce qui fait environ 200 millions d'euros. Une enveloppe donc très très loin des 6% que cette fédération hospitalière estimait nécessaire. Les premiers touchés de tout cela, ce seront les services des urgences, explique Olivier Youineau sur France Culture. Lui, il est secrétaire général du syndicat Sud Santé de l'APHP. Et avec les urgences, dit-il, ce sera la prise en charge de toutes ces personnes qui n'ont plus d'accès à la santé autre que l'hôpital. La médecine de ville n'est plus en mesure de prendre en charge la population, déplore-t-il, et il y aura tous les effets qui seront moins visibles sur les autres services en aval des urgences, par exemple, où le manque de lits, faute d'effectifs, faute de personnel, se fera aussi sentir. Pour les mobilisations proches de chez nous, dans l'Hérault, ça a commencé ce matin à 7, Béziers ou Montpellier, avec des rassemblements devant la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont prévus environ de 11h à 14h. Et dans le Gard, une conférence de presse s'est tenue également ce matin à l'Union départementale CGT. C'était à Nîmes. Et puisqu'on s'intéresse un petit peu au budget de l'année prochaine, un petit point sur l'impôt sur la fortune et où on en est un petit peu des propositions. Les députés ont finalement adopté dans l'hémicycle vendredi dernier, donc ce 25 octobre, un amendement proposé par la France Insoumise pour le projet de budget de l'État, donc pour créer un nouvel impôt sur le patrimoine des milliardaires. Ce nouvel impôt taxerait 2% de la fraction supérieure du patrimoine d'un foyer qui dépasserait le milliard d'euros. Pour se concrétiser, la mesure votée contre l'avis du gouvernement devra bien sûr survivre à la navette parlementaire et à un éventuel et très possible recours au 49.3. En tout cas, dans le principe, ce nouvel impôt ponctionnerait donc à hauteur de 13 milliards d'euros le patrimoine de tous les concitoyens concernés, critiqué d'ailleurs le ministre du budget Laurent Saint-Martin, et il explique que c'est tout simplement un impôt qui n'existe dans aucun autre pays, et il a averti le meilleur moyen de faire fuir ceux qui peuvent investir dans notre pays, c'est exactement celui-là, hein, toujours la même menace de faire fuir les milliardaires qui visiblement sont très très chers à l'économie de notre pays. C'est un argument difficilement audible pour 95% de nos concitoyens, ont d'ailleurs rétorqué le président de la commission des finances, Éric Coquerel, donc de la France Insoumise. Les personnes dont nous parlons, dit-il, en 20 ans, ont accumulé 1000 milliards de plus de patrimoine, et il a fustigé justement ces fameux chantages au départ. Du côté du Rassemblement National, on a interpellé les élus du Bloc Central, en leur reprochant de ne pas être venus assez nombreux dans l'hémicycle pour repousser cet amendement, donc ils étaient contre. Et peu de temps avant, le NFP et le RN s'étaient d'ailleurs renvoyés la balle par rapport à l'échec d'un rétablissement de l'impôt sur la fortune. En effet, du côté du NFP, donc le Nouveau Front Populaire, on proposait un impôt sur la fortune climatique, c'est-à-dire qui tiendrait aussi compte de l'empreinte carbone du patrimoine, qui aurait rapporté environ 15 milliards d'euros, selon leur calcul. Cette proposition a été rejetée par la coalition gouvernementale et par le Rassemblement National. Lui, à l'inverse, donc le Rassemblement National proposait de transformer l'actuel impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Il voulait le transformer donc en impôt sur la fortune financière, l'IFF, mais c'est-à-dire on aurait exclu du calcul du patrimoine la résidence principale. Donc c'est ce qui a notamment motivé le fait que cette proposition a été rejetée par les soutiens du gouvernement ainsi que la gauche. On termine ces nouvelles du Monde avec un gros papier déniché aussi dans les colonnes du journal Reporter qui s'intéresse aux incendies, des batteries lithium-ion. Ces batteries qui sont présentes dans énormément d'objets de notre quotidien de plus en plus et qui sont un véritable cauchemar des pompiers. On parle des voitures électriques, des smartphones, des cigarettes électroniques. Donc notre quotidien regorge de ces objets alimentés par des batteries lithium-ion. Et celles-ci ont un pouvoir incendiaire redoutable qui provoque de plus en plus d'accidents. Mais ça peut être aussi un smartphone, d'ailleurs un ordinateur portable, des AirPods, une cigarette électronique, une trottinette, un vélo, une voiture électrique. Eh bien, il est fort à parier que dans chacun de ces objets se place une batterie lithium-ion, car c'est une source d'énergie devenue incontournable, qui fait donc partie de notre quotidien à toutes les échelles et même des endroits où on ne l'imagine pas. Ces batteries disposent en effet d'une densité énergétique remarquable, à poids équivalent, aucune autre technologie ne réussit à enfermer autant d'énergie, explique Damien Roubineau, qui est expert en nouvelles énergies du CNPP, c'est le Centre National de Prévention et de Protection. D'ailleurs, ces batteries, leurs inventeurs, pardon, ont reçu le prix Nobel de chimie en 2019. C'est une technologie qui a promis notamment de révolutionner nos mobilités et qui est donc au cœur de certaines visions de la transition énergétique. Résultat, c'est la course, les industries s'en emparent et des gigafactories de ces batteries au lithium poussent comme des champignons à travers toute l'Europe. Le problème est qu'avec le déferlement de ces technologies autour de nous, le nombre d'incendies aussi devrait augmenter et ils sont très très compliqués à éteindre, on va revenir dessus. Alors, si déjà la probabilité d'occurrence que ces batteries s'enflamment toutes seules, hein, un emballement thermique, ça reste très très faible hein, comme possibilité de risque, mais les situations qui peuvent déclencher des feux sont malgré tout très très courantes et statistiquement le sont de plus en plus que les objets sont partout autour de nous. Le phénomène d'incendie est essentiellement déclenché par un choc, explique d'ailleurs un lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers professionnels. Mais dit-il, cela peut aussi être lié à une surcharge, ou bien un défaut de fabrication, ou une agression thermique extérieure, par exemple un stockage dans un lieu trop chaud. Et une fois que le processus est lancé, vous le savez sûrement, il est impossible d'arrêter un incendie de ce type de batterie, puisque la chaleur produite, qui est vraiment très très élevée, va brûler la batterie elle-même, mais aussi son environnement, donc la poubelle, la table de nuit, le garage, voire plus. Il faudra donc faire venir les pompiers pour limiter la propagation des flammes, puisqu'on ne pourra pas éteindre le feu, en tout cas pas avec les moyens actuels. Et donc par exemple, le risque d'incendie d'une voiture électrique sur une route isolée, bon, c'est un risque assez qui existe, mais qui est assez faible. Mais par rapport à celui d'une voiture qui est garée dans un parking souterrain, dont l'embrasement pourra se propager à d'autres véhicules, et peut-être même de fragiliser le bâtiment et d'ensevelir les équipes de secours, tout ça sont des nouveaux risques à prendre en compte. Et il n'y a pas pour l'instant de solution, en tout cas à l'échelle du danger. La fin de vie aussi de ces batteries au lithium reste énormément problématique, puisqu'elles finissent très dégradées, mal triées, et sont donc responsables d'une hausse spectaculaire du nombre d'incidents, notamment dans les recycleries ou les déchetteries. Ainsi, selon les données du Bureau d'analyse des risques et des pollutions industrielles, entre 2010 et 2019, l'accidentalité dans les centres de déchets est passée de 14% à 24% des déclarations. En 10 ans, donc, les incendies liés aux batteries lithium ont bondi de 150%, et dans 60% des cas, elles surviennent dans les centres de tri. Ces batteries en fin de vie sont équipées de systèmes de sécurité souvent moins performants que les batteries récentes, puisque ce sont celles un peu des premières générations. Elles ont été souvent déchargées et rechargées de nombreuses fois, ce qui a pu altérer leur stabilité, et elles ont aussi probablement subi de nombreux chocs au cours de leur vie. Et parfois, on part même juste de tout simplement un mauvais geste de tri. Un exemple tout bête, une carte d'anniversaire musicale, avec la petite musique là qui sonne, alimentée avec une petite pile au lithium dedans, qui est attrapée par les pinces de la machine industrielle dans le centre de tri, et bien tout cela peut mettre le feu à l'ensemble du centre, ça s'est déjà vu. Les accidents à la maison inquiètent aussi, hein, puisqu'à New York par exemple, entre 2020 et 2022, les feux causés par ces batteries lithium-ion ont été multipliés par 4, on en a compté 220 en 2022 contre seulement 40 en 2020. Et par exemple, en 2023, 268 incendies de ce type ont causé la mort de 18 New-Yorkais et en ont blessé 150 autres. Pour lutter contre ce fléau, d'ailleurs, à New York, le département des transports de la ville a choisi d'éduquer et de sensibiliser la population à ces risques d'incendie liés aux batteries et à faciliter l'installation de bornes de recharge pour les vélos et les trottinettes électriques en extérieur. Problème alternatif, c'est que vu que ces engins coûtent très cher, ils sont aussi facilement volés, donc les gens préfèrent les monter dans leurs appartements. En France, on n'échappe pas à ce phénomène, hein, et c'est l'Association nationale des utilisateurs de micromobilité qui recensait déjà pas moins de 49 incendies à cause des batteries de trottinettes depuis le début de l'année. Le risque d'incendie des parkings couverts, on en a parlé, inquiète aussi les autorités françaises. Selon un rapport de l'IGED, c'est l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable, ces incendies donc, dans des parkings souterrains depuis les 10 dernières années montrent que la conception des parkings souterrains est devenue obsolète. Les auteurs du rapport recommandent à la fois de renforcer des normes de sécurité incendie dans les parkings, mais également de revoir les scénarios de lutte contre le feu. On rappelle qu'il y a eu un incendie par exemple dans un parking à Liverpool et 1400 voitures ont pris feu. Un an plus tôt aussi, peut-être vous avez vu les images, c'était un cargo qui transportait justement des voitures électriques. C'était en juillet 2023. Il s'appelait le Fremantle Highway. Il a pris feu au large des Pays-Bas avec 500 voitures électriques sur son pont, alimentées par des batteries au lithium. Un marin est mort et tout ça a fini dans l'eau. Donc 10 000 espèces terrestres et aquatiques se sont retrouvées avec les pollutions plein pot. Donc 10 000 espèces menacées dans la mer des Walden. En France, on a eu des incendies dans des entrepôts, hein, plus proches de chez nous, par exemple à Viviers, en Aveyron, dans un immense panache noir, à Grande-Couronne aussi, en Seine-Maritime, ou à Saint-Consorts, c'est dans le Rhône, suite à des feux donc, de batteries usagées, ou qui sont en cours de recyclage aussi, c'est vachement dans les entrepôts de recyclage que ça peut arriver. Et ça ne va pas se calmer, hein, d'ici 2027, normalement, la France produira 1 million de voitures électriques par an, c'était une promesse d'Emmanuel Macron de 2022. Ce business s'annonce donc très florissant et donc plusieurs dizaines de projets de giga-usines de batteries au lithium poussent partout en Europe, en Allemagne, en Norvège, Suède, Autriche et pour la France, pas moins de 4. Ils seront normalement à Douvrin, à Dunkerque, à Douai, tout ça c'est dans le Nord, et à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Donc 3 de ces 4 projets sont dévolus à la technologie lithium-ion qui alimente la majorité des véhicules et des objets électroniques. Et pour l'usine de Mulhouse, la giga-usine même du groupe Bolloré, elle sera dédiée à la fabrication de batteries solides lithium-métal. C'est un nouveau prototype, un nouveau type de batterie qui sont brevetées d'ailleurs par le groupe Bolloré. Une technologie qui est plutôt destinée à la flotte de véhicules en libre-service ou alors pour les bus qui sont produits par le même groupe. Eh bien tout ça, c'est le cauchemar des pompiers, avertit le lieutenant-colonel Larata. Car bien que ces batteries soient plus autonomes, elles contiennent aussi davantage de lithium qui est très réactif. Les pompiers, pour lutter contre ces incendies ou de ces sites délicats, rencontrent les plus grandes difficultés. Par exemple, en Australie en 2021, il leur aura fallu 4 jours pour venir à bout d'un incendie déclenché sur une batterie Tesla de 13 tonnes. En 2020, en Ariège, à Perles-Castellet, les pompiers ont lutté 24 heures durant avant de venir finalement à bout du feu. Dans le cas d'un entrepôt, il faudra déployer aussi des quantités astronomiques d'eau, d'ailleurs pour protéger la structure, alors que les systèmes de sécurité ne sont pas encore suffisants et donc des nouvelles pollutions continuer à polluer les sols et les nappes phréatiques autour, hein, puisque avec des incendies de cette ampleur et si longs à éteindre, les conséquences environnementales sont énormes et elles ne sont pas bien connues pour l'instant. D'une part, il y a l'intoxication par les fumées émises pendant le feu, et toute la population alentour ainsi que les écosystèmes, mais en plus, donc je vous le disais, la pollution des sols liée aux litres et aux centaines et aux milliers de litres d'eau qui sont utilisés pour lessiver l'incendie et pour limiter la propagation du feu. Pour l'incendie de Grande-Couronne qui avait lieu en 2023, 12 000 batteries au lithium ont pris feu et il a fallu des milliers de mètres cubes d'eau pompés dans la Seine juste à côté pour éteindre le feu et évidemment ces litres d'eau sont repartis dans la Seine et dans les sols environnement. Au début de cette année, au début de 2024, le site regorgeait toujours d'eau polluée d'après certaines mesures et il n'a d'ailleurs toujours pas été nettoyé intégralement. Il menace donc toujours de polluer les eaux souterraines. Ce 9 octobre, la justice a d'ailleurs mis en demeure le groupe Bolloré Logistics de réaliser la dépollution d'ici la fin de l'année. Visiblement, il n'avait toujours pas pris les mesures pour cela. D'ailleurs, l'ANSES vient de lancer une consultation qui proposerait une réglementation sur le lithium et les sels de lithium, notamment parce qu'ils présentent des risques reprotoxiques avérés, des propriétés de perturbateurs endocriniens et des risques de toxicité pour les milieux aquatiques.
quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle.
Un petit Dark Deleuze pour finir tout ça, les amis. Je vous laisse méditer. On se retrouve jeudi pour d'autres nouvelles du monde. Et puis d'ici là, de la musique, des émissions, on en reparle. Je vous donne le programme de l'après-midi juste après le jingle.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.